mettre ceux qui n'ont pas pu venir aux soirées ni hier dans l'esprit de ce que j'ai partagé. Donc c'est la raison pour laquelle, même si c'est dans le droit fil de ce que nous avons vu ensemble, je veux prendre un sujet, tant ce matin que cet après-midi, qui puisse être traité indépendamment d'un esprit de suite par rapport aux autres rencontres. Comme je l'ai dit le premier soir, il se peut que certaines personnes, en voyant le titre du sujet, se soient dites « c'est pas pour moi, la guérison intérieure ». Alors chacun interprète ce que ça veut dire. Forcément, dès qu'on voit quelque chose, on interprète. Certains se sont dit « moi, non, ça va, je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je n'ai pas de dépression ». Je n'ai pas eu d'enfance difficile, donc ce n'est pas pour moi. Il se peut que vous ayez eu cette manière de réagir et de penser. Je ne peux pas vous en blâmer. Cependant, il y a quand même des personnes qui ont vécu ces choses et qui ont besoin qu'on traite ces sujets. Mais l'approche que j'ai eue n'a pas concerné seulement, dirais-je, les situations dramatiques, extrêmes, etc. L'approche que j'ai présentée du sujet sur la guérison intérieure, en fait, est en rapport avec la vie du chrétien. Parce que si nous pensons être sauvés, nous sommes entrés dans un processus de guérison. Tous. Même si on n'a pas eu une enfance chargée, des blessures, des séquelles à soigner. Pourquoi ? Parce que le vocabulaire de la Bible l'indique, c'est-à-dire que le verbe guérir et le verbe sauver, parfois ce sont deux verbes différents dans les Écritures, mais souvent c'est le même verbe qui est employé. C'est pourquoi parfois les traducteurs ont du mal à choisir entre ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Parce que dans le salut que nous avons en Jésus-Christ, il y a un processus et un principe de guérison, de redressement de l'âme. Et je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui étaient là par rapport à hier après-midi. Lorsqu'il y a l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain, Dieu rectifie, transforme même, dirais-je, parce que ce n'est pas une réparation, ce n'est pas un bricolage, c'est même pas un échange standard. C'est carrément, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu donc s'attache à soigner la conscience. Alors, si vous voulez connaître le développement, je crois que ça a été enregistré. Il veut guérir l'intelligence, c'est-à-dire la façon de raisonner. C'est pas une question intellectuelle, c'est une question de savoir comment est-ce que je raisonne, comment est-ce que je pense. Comment est-ce que j'ai fondé ma logique ? Et lorsque Dieu sauve quelqu'un, il transforme tout. C'est ça la guérison intérieure. Il transforme sa façon de penser. D'ailleurs, la repentance, savez-vous comment ça se dit dans la Bible ? Non ? Personne ne sait. Ça se dit « métanoïa ». C'est-à-dire « méta », transformation, « noia », transformation, la manière de penser. C'est ça la repentance. Ce ne sont pas forcément des pleurs, des cris, des regrets, des remords. La repentance, c'est une transformation de la manière de penser. « Méta », « noia », comme il y a « para », « noia », « para » à côté d'eux. « Méta », transformation. Et Dieu fait ce travail. Comment échapperons-nous, nous dit l'Épître aux Hébreux, en négligeant un si grand salut ? Donc, je vous invite à prendre en considération cet aspect de la guérison intérieure qui est directement en rapport avec notre salut, car, en étant un peu abrupt dans mon expression, s'il n'y a pas ce travail de guérison, de métamorphose, de transformation intérieure, il n'y a pas de salut. Car le salut, c'est ça. Un salut en don, c'est le don de Dieu. un salut en processus de transformation et un salut à venir, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais je dirais que pour le moment, le plus gros travail que Dieu accomplit, après nous avoir amenés au don du salut, c'est de nous permettre de vivre notre salut en processus. Il y a ce texte, parfois un peu ambigu, « Travaillez à votre salut ». Heureusement, les traductions revues et corrigées contemporaines, notamment la Bible à la Colombe, ont pris soin de rectifier un peu l'expression des choses, car Paul n'a pas vraiment dit « Travaillez à votre salut », mais il a dit « Laissez votre salut travailler en vous ». C'est pas tout à fait pareil, n'est-ce pas ? Si je dois travailler à mon salut, ça veut dire que je suis à l'usine, il faut que je travaille à mon salut, et alors où est le salut par grâce ? Tandis que laisser votre salut travailler, c'est autre chose. C'est un peu comme lorsque l'on met une graine dans le sol, il faut laisser la graine accomplir son travail jusqu'à ce que puisse sortir la plante ou l'arbre qui va à son tour porter du fruit. Pour ce matin, d'abord, permettez-moi de m'approcher un peu. N'ayez pas peur, je suis vacciné. Pour ce matin, je vais d'abord vous donner le titre. Dieu prend en compte la douleur des hommes. Ça, c'est le titre. Maintenant, on a peut-être le choix entre plusieurs citations. Je vais prendre un passage dans le livre des Lamentations de Jérémie. Lamentations de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Jérémie, chapitre 1, verset 12. Lamentations. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. Voilà une parole qui peut faire un peu trembler, surtout que la personne en question, Jérusalem en l'occurrence, Jérémie est comme le porte-parole, interprète ainsi ce qui se passe. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. De quoi trembler, n'est-ce pas ? Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Ce passage montre que, en disant ces paroles, il y avait comme un besoin. C'est un besoin que la douleur vécue soit reconnue par les autres. Il n'y a rien de plus terrible que lorsque quelqu'un dit qu'il a mal, les autres disent « Mais non, tu n'as pas mal. » Qui sommes-nous pour décréter à la place des autres que lorsqu'ils disent qu'ils ont mal, c'est qu'ils n'ont... C'est un mensonge, c'est de la comédie. C'est de la comédie, vous n'avez jamais entendu ça ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? Oh, c'est de la comédie. Peut-être que vous l'avez dit. Vous-même. Parce que lorsqu'on parle de douleur, il y a les douleurs qu'on nous inflige, mais il y a aussi les douleurs qu'on inflige aux autres. N'oubliez jamais. Il y a le mal qu'on nous fait, mais il y a le mal qu'on fait. Il y a les gens qui nous font pleurer, et il y a ceux qu'on a fait pleurer, peut-être. Sans s'en rendre compte. Donc, j'allais dire, match nul. Car c'est vrai que c'est un match qui est très nul. S'il faut compter les points, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure, c'est difficile. Cette parole montre donc qu'il y a là comme un besoin, c'est le besoin d'avoir une douleur qui est reconnue. Et vous savez que même la médecine aujourd'hui prend en compte toutes les douleurs, même les douleurs imaginaires, parce que un médecin consciencieux se dit qu'en fin de compte, il n'y a peut-être pas vraiment d'imaginaire. La personne qui dit qu'elle a mal, elle a vraiment mal. Et nous n'avons pas le droit de lui dire qu'elle n'a pas mal. Remarquez, parfois nous disons que c'est de la comédie parce que nous voulons expédier le problème, étant donné que nous sommes impuissants à le résoudre ou à répondre. Mais d'ailleurs, les gens qui disent qu'ils ont mal n'attendent pas forcément que vous leur apportiez une solution. Ils veulent simplement une oreille pour écouter, pour entendre. Et en reprenant le sujet que j'ai traité les jours passés sur l'onction d'huile, comme je le disais encore hier après-midi, nous recommandons aux personnes qui demandent l'onction d'huile que j'ai pour les besoins de la cause, traduite en application d'huile, et vous verrez pourquoi si vous reprenez l'enregistrement. J'ai dit, on dit aux personnes qui demandent, compris pour elles, de se préparer. On vous l'a dit ça ? Oui, on a bien fait. Mais je crois que les gens qui vont prier pour les autres ont aussi besoin de se préparer eux. Non ? Ils ont besoin de se préparer parce que aller à la rencontre d'une souffrance, ça ne peut pas se faire avec désinvolture. Ceux qui demandent la prière ont besoin de se préparer. Ceux qui vont exercer l'intercession ont besoin de se préparer aussi. Et c'est eux, disais-je, qui ont peut-être besoin d'être oints d'huile eux-mêmes avant d'aller oindre d'huile les malades. Et lorsque je parle de prise en compte de la souffrance et de la douleur, je pense qu'il y a plusieurs niveaux à ça. Il y a nous-mêmes qui devons prendre en compte notre douleur et ne pas la nier, car quelquefois il y a un déni. On ne veut pas admettre la douleur qu'on a, alors qu'on ferait bien de la reconnaître soi-même pour soi-même. Regardez dans les psaumes, n'est-ce pas ? Il y a par exemple, sauf erreur, dans le psaume 32, cette parole de David qui dit « Tant que je me suis tu, je gémissais toute la journée ». Ça veut dire qu'il avait mal. Le mal qu'il avait n'était pas d'abord un mal physique ni un mal mental. Le mal qu'il avait fait, c'était un mal qu'il avait commis, une faute, entre parenthèses, partagée avec la femme avec laquelle il avait commis l'action. Car parfois, n'est-ce pas, dans certains cas, dans le problème de la femme adultère, eh bien, on ne parle que de la femme, on oublie l'homme avec lequel elle était. Mais parfois, lorsqu'on traite le sujet de David et de Bathsheba, on parle du mal que David a commis, et on oublie de dire que Bathsheba en partageait la responsabilité. Oui ou non ? Car, que je sache, elle n'a pas dit, lorsqu'on est venu la chercher, « Je suis mariée. J'ai un mari. » David ne l'a pas violée. David ne l'a pas violée. Donc, je ne jette la pierre à personne, mais je me dis que là, c'était, on va dire, un mal partagé. Responsabilité 50-50, ou 100% pour l'un et pour l'autre, ce qui fait 200%. En tout cas, il a dit, tant que je me suis tu, je gémissais toute la journée. Donc, il n'a pas voulu identifier le mal qu'il avait commis, il n'a pas voulu l'admettre, il n'a pas voulu le prendre en compte. Nous devons accepter de reconnaître notre plaie, notre douleur. Deuxièmement, il y a la prise en compte des autres. Puis troisièmement, en réfléchissant à la question, je crois aussi que il y a la prise en compte de la douleur dont l'Église est chargée. Ce n'est pas que nous devions nous charger de toutes les misères du monde, parce qu'on va mourir. Il faut apprendre à se protéger. Entre parenthèses, certains m'ont parlé de leurs souffrances, de leurs épreuves et tout, etc. Et je me permets de donner cet avis, qui n'est qu'un avis, mais je crois quand même qu'il vaut ce qu'il vaut. Vous ne pouvez pas porter la misère du monde. À un moment donné, vous êtes obligé de vous protéger vous-même parce que c'est pas à vous de mourir pour les autres. C'est le Seigneur qui est mort pour les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Justement, Donner sa vie, c'est pas forcément mourir. Dieu ne vous demande pas de mourir pour quelqu'un. Il vous demande de vivre pour lui. Donner sa vie, c'est pas mourir pour les autres. C'est vivre pour les autres. Et même, je dirais que si vous ne vivez pas pour les autres, vous pouvez pas les aider. Donc, il faut vivre pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, à un moment donné, il faut quand même se protéger et on ne peut pas se charger de tout. Mais il y a quand même, dans l'Église, un besoin de prendre soin les uns des autres. Il y a un besoin de porter les fardeaux les uns des autres, c'est écrit. Il y a un besoin de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris, c'est écrit. Pas seulement de prier les uns pour les autres, mais dirais-je de prier les uns avec les autres. Quand il m'arrive de faire un appel pour demander aux gens de s'avancer, je ne le fais pas toujours. Surtout sur des sujets comme ça, entre parenthèses, ne vous étonnez pas si je ne fais pas d'appel. Je vais vous dire pourquoi. Vu que parfois je peux évoquer des choses très intimes, l'inconvénient d'un appel public, c'est de livrer en spectacle des personnes. On leur met la pression. Ah oui, on leur met la pression, excusez-moi. Alors, ils viennent. Alors tout le monde les voit, et quelque part, excusez-moi, c'est indécent. C'est indécent. Je ne veux pas prendre la responsabilité d'exposer qui que ce soit en spectacle avec sa souffrance devant le public, même si le public est un public acquis à la cause et sympathisant, mais c'est pas une raison. Nous devons respecter. Comme dans les églises où j'ai été pasteur responsable, j'ai pris conscience à un moment donné que je ne devais pas donner même du haut de l'estrade sans l'autorisation des gens la mention de leurs problèmes. C'est un devoir déontologique. Si quelqu'un me dit « dites que j'ai ça », d'abord j'examine pour savoir si je dois le dire, et si quelqu'un ne m'a pas donné l'autorisation, je dis rien. Je dis prier pour un tel, ou même je le dis pas, parce qu'il faut agir avec sagesse, car quelquefois les églises deviennent des microcosmes, et il n'y a pas que les virus de grippe qui s'y développent, il y a les virus de rumeur, les virus de jugement les uns sur les autres, les ragots, les curiosités, vous êtes parfois étonné de vous apercevoir que la confidence personnelle que vous avez faite à quelqu'un, tout à coup tout le monde est au courant, les amis de nos amis sont nos amis, même avant Facebook ça existait, les choses se propagent et peuvent faire beaucoup de dommages collatéraux. C'est pour ça que je suis de plus en plus prudent et réservé. Je vous ai donné une partie de mon témoignage dans les soirées, j'en prends la responsabilité. C'est moi qui parle, donc j'assume. Pour la bonne raison que, de toute façon, cet accident de la vie était connu, donc j'ai plutôt à rebondir dessus plutôt qu'à essayer de le cacher. Mais l'Église a, cependant, avec sagesse, amour, je ne peux pas tout dire ce matin, prudence, et avec compassion, elle a besoin aussi de prendre en compte la douleur des autres. Parce que ceux qui souffrent, parfois, vivent comme une agression le bonheur des autres. C'est pas si facile que ça de se réjouir du bonheur des autres. Vous savez que la Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Honnêtement, c'est pas facile. Je prends l'exemple d'un mariage. Un mariage qui est le bonheur de deux personnes, enfin je l'espère, hein, normalement, peut causer comme par un effet miroir, un phénomène de douleur dans le cœur de ceux qui ont échoué ou qui sont en frustration par rapport à ça. Pareil pour les naissances, pour les moments heureux de la vie de l'Église ou les moments heureux de la vie individuelle. Le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. Le bonheur des uns peut en fait remuer le couteau dans la plaie de certaines personnes. Donc, il faut beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse pour prendre en compte la douleur des autres, et il est important que l'Église mette J'aurais aimé traiter le sujet, je n'en aurais pas le temps. Il est important que l'Église mûrisse, qu'elle devienne mature, adulte, responsable, pour être capable de porter les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas aussi facile que ça, toujours. Et parfois, il m'arrive de dire dans les réunions sur le sujet de la souffrance, qu'il est parfois plus difficile de souffrir en milieu chrétien qu'en milieu non chrétien, ce qui est très paradoxal. Excusez, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui n'ont pas entendu mes précautions oratoires. Il se peut que je dise des choses non conventionnelles par rapport aux habitudes. Il se peut que vous considériez que mon enseignement est atypique. Mais c'est pas le problème. Le problème est qu'il soit conforme à la réalité. Si vous pouvez me prouver qu'une chose que j'ai dite est fausse, d'accord, contredisez-moi. Mais moi, je veux contredire les gens qui affirment des choses que la réalité contredit. J'ai jeté un froid, là. Non, mais le chauffage est bon, on a fait l'expérience. Non, mais pourquoi? Parce que, des fois, je boue un peu d'entendre des choses qui ne tiennent pas la route et qui, à l'expérience, s'écroulent. Ce qui fait que, alors là, j'en remets une couche, par rapport à mon atypisme, ce qui fait qu'il arrive dans les églises que l'auditoire soit constitué des survivants, et on n'a pas vu tous les gens qu'on a perdus. Pourquoi ? Parce qu'on leur a soutenu des théories qui n'ont pas fonctionné, on leur a dit des paroles de jugement, des paroles de rejet. Il y a eu des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles qui ont été choqués d'entendre des raisonnements, quelquefois familiaux, excessifs, fanatiques et autres, ce qui fait que ils ont dit à un moment donné, c'est peut-être pas la seule explication, mais c'est en partie une explication, ils ont dit à un moment donné, non, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Or, effectivement, Dieu ne nous demande pas de croire dans des incohérences. Il nous demande de croire dans des choses intelligentes et fondées. Et le domaine de la souffrance est un domaine à prendre avec beaucoup de considération. Et ce que je partage avec vous et ce que j'ai partagé avec vous, en fait, ça vient de plusieurs choses. C'est vrai que quand j'étais jeune pasteur, il y a des choses que j'ai dites et je vais dire que je ne devrais plus dire. Mais oui, j'ai parfois repris des notes il y a 40 ans. J'ai dit, mais t'as dit ça? Ben oui, je manquais d'expérience. Et à écouter les gens, comprenez? Pas seulement à lire la Bible, mais aussi à écouter les gens, à voir les réactions. Je me suis dit, il y a des choses à repenser. Je ne vais pas changer la Bible, mais je vais peut-être changer ma façon de comprendre. Pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit, mais pour essayer d'expliquer ce qu'elle a vraiment dit. Par exemple, un jour, une personne vint me voir pour me dire, dorénavant, vous ne me verrez plus dans l'église. Alors dis-je, quelle est la raison? Elle me dit, c'est parce que j'ai un mauvais témoignage. Alors je m'attendais à tout, sauf à la réponse, parce que j'ai demandé l'explication. J'ai dit, vous en avez trop dit ou pas assez dit? Qu'est-ce qui se passe? Que je puisse vous aider? Parce que c'est ça aussi une question. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est pour que vous puissiez l'aider, c'est pas pour satisfaire une curiosité. Alors me dit-elle, je suis malade, j'ai beau prier, tout le monde me dit qu'il faut croire au miracle, Et comme je ne suis pas guéri, je suis un mauvais témoignage pour l'Église, parce que je ne suis pas guéri. J'ai pas eu l'autorisation de la personne pour le dire, mais comme vous ne pouvez pas savoir de qui il s'agit, de toute façon, je ne la compromets pas. Mais bon, je ne sais pas vous comment vous auriez réagi. Je sais pas comment votre pasteur aurait réagi. Chacun est libre de réagir à sa façon. Et moi, quand j'ai entendu ça, vous savez ce que j'ai ressenti? Un sentiment de honte. Un sentiment de honte. Parce que je me suis dit, voilà une personne pour laquelle Christ est mort, qui est passée par le baptême, qui marche avec Dieu dans sa vie de piété, qui a une souffrance physique, une maladie dont elle n'est pas guérie, et qui veut quitter l'Église, parce que dans sa conception de la guérison divine, c'est guérison obligatoire. Sinon, tu n'as pas la foi. Pour elle, c'était un mauvais témoignage. Et en entendant ça, vous comprenez que j'ai été obligé de remettre en question une approche des choses. Parce que, je vais le dire comme ça, je me dis, on peut avoir un message pour exhorter les gens à croire à la guérison divine, et je crois à la guérison divine. J'ai été guéri moi-même miraculeusement de quelque chose qui n'aurait jamais pu l'être par la main des hommes, mais je crois qu'il faut un message pour les gens qui n'ont pas vécu la guérison divine selon la conception traditionnelle et monolithique de l'expression. Oui ou non? Bah, moi je passe ce soir, je repars donc. Mais de toute façon, c'est vrai. La réalité de la vie de l'Église, c'est qu'il y a des souffrances dans l'Église. Il y en a des physiques, des maladies. Il y en a des morales, même des dépressions. Et ce n'est pas un péché. Il y en a des psychologiques, il y en a des mentales, il y en a des familiales. Mais il y a de la douleur dans l'Église. Oui ou non? Il y a de la douleur. Alors ou bien nous faisons un déni, pas un déni de grossesse, mais un déni de douleur, ça n'empêchera pas la douleur d'être, seulement on ne pourra pas s'exprimer. Et on va arriver à des situations où les personnes vont même la cacher, leur douleur. Ne pas oser la dire. Comme je rendais le témoignage d'une personne qui ne voulait pas dire qu'elle allait aller à l'hôpital, pour soi-disant ne pas provoquer de dérangement à son égard, mais la réalité était autre, c'est qu'elle ne voulait pas qu'on le sache parce qu'elle avait peur qu'on la juge. Vous voyez ? Alors c'est quand même extrémiste et ça remet en cause. Si l'Église, si notre Église, nos Églises ne sont pas capables d'assumer les douleurs qui sont dans son sein, les souffrances qui sont dans son sein, si ceux qui souffrent se sentent pointés du doigt, marginalisés, obligés de cacher leur handicap afin que personne ne s'en rende compte parce qu'ils font un complexe d'infériorité et de frustration, où allons-nous ? C'est à l'envers de l'Évangile. C'est à l'envers de l'Évangile. Moi, je me rappelle du jour où, dans toute une réflexion semblable à cela, j'ai dit dans l'église où j'étais à un moment donné, bien sûr il y a eu toute une progression, toute une approche, j'ai dit mais au milieu de nous, les infirmes qui sont encore infirmes sont les bienvenus. Les malades qui sont toujours malades et encore malades, ils sont les bienvenus. Tant mieux pour ceux qui ont pu être débarrassés par la grâce de Dieu de leur maladie. de leur écharde dans la chair. Mais comme je l'ai expliqué, l'écharde dans la chair de Paul n'était pas une maladie, c'était autre chose, c'était un démon qui lui mettait la persécution partout. Mais d'un autre côté, nous sommes appelés à accueillir les faibles, les démunis, les pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades et qui peut-être resteront malades. Il doit y avoir une prise en compte de la douleur. Et quelquefois, le problème est que nous avons besoin de guérir. Alors, je vais dire de deux choses. Je regarde ma montre pour ne pas excéder le temps imparti. Mais avant de parler de guérir, au sens de dire « je souffre plus », etc., chose dont je dirais tout à l'heure que la vie sans souffrance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Dieu souffre. Mais nous avons besoin d'avoir une guérison intérieure par rapport à d'autres choses, peut-être, dont nous ne sommes pas conscients. Et c'est beaucoup plus important que simplement essuyer quelques larmes sur les yeux de quelqu'un, même si essuyer les larmes, c'est fondamental, mais encore faudrait-il savoir pourquoi la personne pleure. De quoi faut-il guérir? Afin de ne pas passer à côté, parce que il faut quand même avouer, parfois, on est passé à côté de souffrance. Et on a été, excusez l'expression, à côté de la plaque. On peut être à côté de la plaque par rapport à quelqu'un. Rappelez-vous de Élie, le sacrificateur, il voit Anne qui pleure et il lui dit « fais passer ton vin ». Pour être à côté du sujet, c'est vraiment à côté du sujet. Comme discernement des esprits, ça se discute. Passer à côté. Vous avez le sacrificateur et le lévite, c'est carrément écrit qu'ils sont passés à côté de la douleur. Parce que c'est écrit « ils passaient outre ». Donc ils sont passés outre, donc ils sont passés à côté. Mais pour éviter de passer à côté, pour une prise en compte et une plus grande compassion, il faut guérir au moins de deux choses. La première chose, c'est qu'il faut guérir de fausses idées, de faux raisonnements. Ça va rejoindre un peu ce dont je parlais hier, la guérison de la conscience, du raisonnement, de l'intelligence. Il faut guérir de faux raisonnements sur notamment la souffrance. Il faut en guérir. Quand je dis guérir, le terme est fort. Je dirais, il faut mourir à ça. Par exemple, voilà, je me suis fait une petite liste de raisonnements, de slogans qui sont parfois utilisés comme celui-ci. La souffrance rapproche de Dieu. Ça peut arriver. Attendez, je suis pas, comme on dit, manichéen, c'est-à-dire tout blanc, tout noir. Non, ça peut arriver. Mais je tiens à dire que la souffrance qui pourrait rapprocher de Dieu, ce n'est ni obligatoire, ni automatique, ni systématique. Parfois, la souffrance peut éloigner de Dieu. Et si quelqu'un vient vous dire un jour que la souffrance l'a éloigné de Dieu, surtout ne lui faites pas la morale. Surtout. Moi, si quelqu'un me disait « la souffrance m'a éloigné de Dieu », je lui dirais « je comprends ». Maintenant, êtes-vous sûr que c'est de Dieu que ça vous a éloigné, ou de l'image que vous vous faites de Dieu? Ce qui me met sur le chemin de la deuxième chose dont on a besoin de guérir et que je dirai dans quelques instants, c'est-à-dire nous avons besoin de guérir de la fausse image qu'on a parfois de Dieu. Mais je reste sur les clichés sur la souffrance. La souffrance purifie. Vrai ou faux? Alors là, c'est pareil, moi, je vais dire. Heureux celui que la souffrance a purifié. Mais il y a des fois où la souffrance a été une occasion de chute et a créé l'amertume, l'aigreur, la jalousie, etc. Oui ou non? Je ne le dis pas pour le recommander, mais je procède ainsi, je dis tout haut ce que parfois on dit tout bas ou qu'on n'ose pas dire du tout, afin qu'on en parle. Parlons-en. Parlons-en. Autre cliché, La souffrance est une punition et un jugement de Dieu. Rien, tout à l'heure, on a lu la lamentation de Jérémie. Y a-t-il une douleur semblable à ma douleur? L'Éternel m'a puni au jour de son ardente colère. Si la souffrance était une punition, toujours, je comprends mieux pourquoi le psaume 73 nous montre les problèmes intérieurs qui se livrent dans le cœur d'un homme qui pourtant est chantre, c'est-à-dire il est conducteur de louanges du temps de David et il est là pour dire « Oui, l'Éternel est bon !» Et d'ailleurs, il commence son psaume comme ça « L'Éternel est bon !»« Oui, l'Éternel est bon !» Et après, il dit « Toutefois, toutefois, mon pied allait glisser !» N'ai pas été sur le point de fléchir, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants, eux rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'était pas tout à fait vrai, mais quand même, nous sommes bien obligés de constater que certains s'en tirent avec impunité, et d'autres vraiment ont comme le don d'attirer le malheur. La souffrance est-elle une punition ? Grave problème théologique. Pas vraiment la réponse, hein. Dire que la souffrance a commencé avec le péché, j'en suis pas sûr. Parce que Dieu dit, j'augmenterai les souffrances de l'enfantement. Mais ça veut dire qu'il y en avait avant. Peut-être. J'ai pas tout résolu, justement. Heureux sont ceux qui croient qu'ils ont réponse à tout, moi non. Mais en tout cas, ne vous mettez pas dans la tête que si vous avez une souffrance, c'est un jugement et une punition. J'ai expliqué l'autre jour le texte de la Sainte-Seine, je n'ai pas le temps de le refaire, et vous verrez que ce n'est pas ça que Dieu dit. Certains sont malades et un grand nombre sont morts, ce n'est pas ce que l'on fait dire au texte. Alors, faut que je le dise quand même, sinon vous allez rester sur un point d'interrogation. Il y en a qui prennent la Sainte-Seine sans se juger eux-mêmes. C'est pour ça, dit le texte de la Bible, qu'un certain nombre sont tombés faibles dans la foi, malades, c'est asthénique, et qu'un certain nombre sont tombés dans un sommeil mortel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts physiquement. Mais de toute manière, c'est un principe. Celui qui vit sa vie chrétienne, y compris qui participe à la Sainte-Seine, sans se juger lui-même, il endurcit sa conscience. Et au fur et à mesure qu'il endurcit sa conscience, il perd de vue l'essentiel des choses, il devient faible dans la foi et il tombe dans un sommeil spirituel mortel. Voilà ce que ça veut dire. Mais la souffrance n'est pas forcément une punition de Dieu, mais ceux qui le croient diront comme dans le chapitre 53 d'Ésaïe, à propos de Jésus, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. D'un certain sens, il y avait quelque chose de vrai, mais il n'était pas puni pour lui-même. Ou alors, la souffrance vient du diable. Alors ça, ce raccourci m'indispose sérieusement. La souffrance vient du diable. Je vais vous dire, même dans le livre de Job, la souffrance n'est pas venue du diable. Parce que le premier qui a pris l'initiative sur la situation, c'est pas le diable. C'est Dieu qui a tout sous son contrôle. Et le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Quant aux chrétiens, ils doivent surtout veiller à ne pas donner accès au diable. Mais même s'ils souffrent, c'est pas forcément du diable. Trop vite dit ça. Ou bien celui qui souffre a péché. C'est faux. Ou bien celui qui souffre manque de foi, c'est faux. Ou bien, celui qui souffre alors a des mérites. C'est faux aussi. Il faut guérir de ces choses. Mais j'en arrive maintenant à ce point qui me semble important, c'est que pour accepter que Dieu prenne en compte notre souffrance, c'est très important ça. Si au moins on peut se dire ce matin, je souffre, mais Dieu le sait. Chacun va me dire, oui, mais ça on le dit tous. C'est pas aussi évident, quoi. Parce qu'il y a le langage qu'on tient, qui est, le langage qu'il faut tenir, c'est le langage convenu, Et puis, il y a ce qu'il y a au fond du cœur qui, quelquefois, n'est pas tout à fait exactement le reflet de la même chose. Donc, pour réaliser que Dieu prend en compte ce qu'on souffre, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de comprendre que ça passe par l'image qu'on se fait de Dieu et de l'amour de Dieu. Alors, peut-être que certaines personnes ne se sont même pas posé la question et se disent, mais l'amour de Dieu, ça ne me pose pas un problème. Oui, mais quelle est l'image que tu t'en fais ? Voulez-vous que nous prenions un texte dans la Bible qui est dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 18 seulement. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si je pouvais laisser à chacun ici la possibilité de s'exprimer sur l'amour de Dieu, je pense que nous aurions des expressions différentes. Parce que il y a l'amour de Dieu et il y a l'image qu'on s'en fait et il y a ce qui a contribué à créer en nous l'image de l'amour de Dieu. Parce que quand même ici il y a quelque chose qui est fort, c'est qu'il est dit, la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais ça veut dire que s'il y a une crainte qui est saine, il y a une crainte qui est malsaine, c'est toujours la peur, la peur. Combien de gens, n'est-ce pas, vivent dans la peur ? Par exemple, vous avez, je recherchais le passage tout à l'heure dans les évangiles, le récit que Jésus fait d'un certain serviteur qui s'est comporté comme il n'aurait pas dû se comporter, qui a caché, n'est-ce pas, son talent ou sa mine, et puis quand il a voulu expliquer la raison pour laquelle il avait fait ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai caché. Parce que tu es un homme dur. Vous rechercherez. J'ai eu peur parce que tu es un homme dur. Qui est-ce qui était qualifié de dur ? C'était le maître, et derrière le maître, c'est l'image de Dieu qui se trouve. Et cet homme s'est trouvé dans une situation d'attitude paradoxale, parce que dans son esprit, le maître était dur. Et ça lui a donné peur, ça lui a fait peur, il a eu peur. Et je pense que parfois, nous avons peur de nous approcher de Dieu, parce que nous avons de lui une image qui nous tient un peu parfois à distance. Ce n'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Donc, si c'est pas vrai pour vous, je m'en réjouis, mais supportez que je m'adresse aux personnes pour lesquelles il y a peut-être un problème et qui ont peur de s'approcher. Parce que avant de parler de guérir de la dépression, guérir des événements dramatiques de la vie, guérir des mauvais souvenirs, guérir des séquelles de ceci, guérir des séquelles de cela, il faudrait quand même mettre les personnes que vous êtes sur le chemin de ce qui va vous guérir. Qu'est-ce qui va vous guérir ? C'est Dieu. Mais pour que Dieu nous guérisse, il y a une chose, sine qua non, ce qui veut dire sans quoi c'est non. Faut qu'on ait l'assurance et la foi pour nous approcher de lui. Ça paraît simple. Comme disent parfois les gens, simplicité biblique, ce qui est un peu anachronique parce qu'il n'y a pas de simplicité biblique, mais c'est quand même vrai. Est-ce que peut-être Dieu veut guérir ce matin ? C'est tout simplement la liberté que vous avez ou que vous n'avez plus de pouvoir vous approcher de Dieu, et cette liberté est directement liée à l'image que vous vous faites de Dieu. D'où la question, qu'est-ce qui a fait en nous, quels sont les éléments qui ont contribué en nous à nous faire de Dieu une certaine image. Il y a plusieurs choses. On peut se faire une image de Dieu au travers de l'Église. Qu'on le veuille ou non, l'Assemblée, l'Église locale, donne aux gens qui y pénètrent un reflet d'une certaine image de Dieu. Peut-être que vous en êtes conscient, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais vous projetez sur les autres, vers les autres, une image de Dieu. Quand quelqu'un entre ici, dans ce qu'on appelle l'évangélisation, ou qui peut venir dans une autre circonstance, un mariage, des obsèques ou d'autres éléments, parce que les gens ne sont pas obligés de venir aux réunions que nous on appelle d'évangélisation, elles ont le droit de venir à toutes les réunions, et puis elles sont les bienvenues, parce que de toute façon je pense qu'à toutes les réunions on doit faire d'évangélisation. Et à toutes les réunions il faut que les chrétiens aussi se trouvent bénis par la parole de Dieu. Mais on renvoie une image. Et pour les gens qui connaissent pas le Seigneur, l'image qu'on renvoie, c'est l'image de Dieu. Il y a peut-être des personnes ici qui voient Dieu au travers des gens qui sont là. Mais ça, c'est incontournable. Pour les enfants, les jeunes, qui sont élevés dans nos familles, ils se font de Dieu une image au travers de leurs parents chrétiens. Que vous le vouliez ou pas. Parce que les enfants sont témoins, pas seulement de notre fréquentation des réunions, mais ils sont témoins de notre comportement à la maison. Et si jamais il y a une contradiction, ils le voient tout de suite. Et c'est pas dans des attitudes d'hyper-spiritualité, quelquefois suspectes, qu'on est le reflet du Seigneur. C'est dans les choses ordinaires de la vie, comme « je ne mens pas à mes enfants ».« Je ne mens pas à mes enfants ». S'il y a des choses que je ne veux pas leur dire, je leur dis parce qu'ils sont des enfants, que je ne veux pas leur dire parce que c'est la question des parents. Mais si je leur mens, s'ils découvrent que je leur mens, quand je leur parle du Seigneur, ils vont me dire, et quand tu me parles du Seigneur, tu mens aussi. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. S'il y a de la violence dans les paroles, entre les époux, s'il y a de la rancune, s'il y en a un qui monte les enfants contre l'autre, ils voient ça. Je ne fais pas le procès des parents. Nous sommes tous des parents imparfaits. De toute façon, nous sommes tous des parents imparfaits. Et pourtant, la Bible dit, par exemple, pour ceux qui ont des fonctions qui doivent être irréprochables. Alors, vous allez me dire comment on fait. Je vais vous expliquer comment un parent peut devenir irréprochable tout en n'étant pas infaillible. Parce que justement, irréprochable, ça ne veut pas dire infaillible. Ça veut dire que si vous avez fait une erreur, si vous avez été injuste, vous avez puni un enfant qui n'avait rien fait, parce que l'autre enfant s'est arrangé pour faire porter le chapeau à son frère ou à sa sœur, vous avez donc commis une injustice. Et quand vous vous rendez compte de l'injustice, eh bien, vous allez demander pardon à votre enfant. Et là, vous devenez irréprochable, parce que au moins l'enfant peut se dire, j'ai des parents, ils sont pas parfaits, mais ils sont droits. Ils sont justes. Ils sont intègres. Et quand vous leur parlez du Seigneur, alors là, c'est plus fiable. C'est davantage crédible. Parce que l'enfant se fait une image de Dieu au travers de ses parents. Et puis l'enfant se fait une image de Dieu peut-être aussi au travers des événements de la vie. Nous tous, nous sommes fait une image de Dieu au travers des événements de la vie. Sans connaître le Seigneur, bon, il n'y a rien à faire, hein. Les références à Dieu, elles sont assez fréquentes de dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive ci, pour qu'il m'arrive ça. Bref, et ceux qui ont été beaucoup frappés de malheur ont eu tendance à interpréter leur malheur comme étant le fait, non pas que Dieu n'existait pas, mais que Dieu ne les aimait pas. C'est terrible. C'est humain. Je vais même vous rassurer quelque part. Si vous, en tant que chrétien, même affermi, à un moment donné, parce qu'il vous arrive quelque chose, vous vous posez la question, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Ben, écoutez, posez-vous là la question, vous avez le droit de vous la poser. Le problème, c'est de rectifier le tir et de ne pas trouver là une occasion de chute, mais quelque part, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je disais qu'il faut prendre les souffrances en compte. Dieu prend la souffrance en compte. Il faut prendre en compte la souffrance des autres. Il faut prendre en compte notre souffrance. Il faut savoir une chose. Dieu nous accorde le droit même de dire des choses qui dépassent nos pensées véritables. Et quelquefois, on craque parce que il y a des droits auxquels on a droit qu'on ne veut pas s'accorder. Par exemple, il y a des gens, ils veulent être tellement sanctifiés qu'ils deviennent psychorigides parce qu'ils ne veulent pas s'accorder le droit de commettre une seule erreur. Je n'ai pas dit un péché graveleux, c'est pas ça que j'ai dit. Et quelquefois, nous devenons, par notre conception de la sanctification, des psychorigides. Je cherche dans le dictionnaire. Des psychorigides. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'accorde pas le droit à l'erreur. On ne s'accorde pas le droit à la souffrance. On ne s'accorde pas le droit d'avoir mal. On ne s'accorde pas le droit même de dire, ne criez pas au blasphème, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui l'a dit ? Jésus, mais avant Jésus, David l'a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait le sentiment que c'était comme ça. Il n'a pas dit ça pour dire, je suis prophète, je suis payé pour ça, donc il faut que je donne des paroles messianiques que le Messie reprendra quand il viendra après moi. Il n'a pas joué cette comédie théâtrale d'un acteur qui se donne en spectacle. Il jouait pas un rôle, David, et Jésus non plus quand il l'a dit. Il l'a dit, pas seulement parce que c'était écrit et qu'il fallait accomplir les Écritures, mais parce que, vraiment, à ce moment-là, il le sentait. Et parfois, nous craquons, mes frères et sœurs, nous craquons parce que nous ne nous accordons pas le droit à l'humanité. Et nous devenons des psychorigides. Intraitable, intolérant, qui font peur. Alors les enfants, ils marchent droit. Oui, ils marchent droit. Sauf quand ils ont 18 ans et qu'ils disent, papa, ça suffit. C'est pas bien de dire ça à ses parents, je vois qu'il y a des jeunes ici. Mais il était écrit, parents, enfants, obéissez à vos parents, mais il est aussi écrit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, l'image de Dieu, elle est constituée par beaucoup d'éléments parasites. Ce qui fait que quelquefois l'image de Dieu, même, tenez, l'expression « Dieu est un père », c'est une bonne nouvelle ? Ben, attendez, pas pour tout le monde. Parce que quand vous dites le mot « père », la personne qui l'entend projette sur ce mot l'expression de l'image de son père, et comme quelquefois, hélas, le père il n'a pas été toujours à la hauteur, ou bon, ça c'est peut-être subjectif, parce que bon, quelquefois aussi il y a des enfants qui sont très injustes avec leurs parents, et c'est grave, je le dis, c'est grave quand des enfants ne sont pas capables de reconnaître les efforts des parents, même imparfaits, mais des efforts quand même. Mais forcément, c'est pas toujours, vous comprenez.
Alors là, je vais rejoindre, n'est-ce pas, tout ce qui a pu se passer dans le passé des gens dont ils ont besoin d'être guéris, mais qu'on leur dit Dieu est un père, ça suffit pas. Parce qu'ils s'imaginent que Dieu est, il est comme leur père. Hier, je vous parlais de la jeune fille qui a vu son père presque mourir sous ses yeux d'un infarctus majeur, puis sa mère frappée d'un cancer de la glande thyroïde. Elle a vu le niveau de vie de la maison baisser, un foyer de chrétiens, et cette jeune fille un jour elle a dit si Dieu m'aime, comment? Et si vous en rappelez, cette anecdote vraie que j'ai racontée, je lui ai dit, la preuve que Dieu t'aime, c'est la croix. Seulement, moi, je peux pas t'expliquer la croix. Vraiment, ça suffit pas. Tu vas aller chez toi, tu vas prendre la Bible, tu vas lire l'Évangile, tu vas essayer de prier le Seigneur pour qu'il te révèle qu'indépendamment des circonstances, il t'aime car les circonstances ne sont ni des preuves d'amour et de non-amour. La vraie preuve, c'est la croix, et si tu te donnes au Seigneur, tes péchés vont être pardonnés et tu seras sauvé parce que ton salut et ton bonheur, peut-être que sur la terre il sera toujours imparfait, mais c'est en espérance que tu l'auras obtenu. Oui, nous avons besoin de guérir de nos fausses idées sur la souffrance et de nos fausses idées sur Dieu, parce que l'amour parfait chasse la crainte, mais la crainte suppose un châtiment. Et ce qui veut dire, si on essaie de comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'on est toujours dans la crainte, quand on est toujours en train de faire des suppositions de jugement, de châtiment. Alors, il m'arrive ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois supposer que j'ai fait? La culpabilité! La culpabilité qu'entraîne, et qui quelquefois est encouragée par des doctrines bizarres, des paroles en l'air, qui sont semées par des gens inconséquents et irresponsables. Comme un jour entendais-je quelqu'un parler à un groupe de personnes, un chrétien n'aura jamais un cancer, le cancer vient du diable, un chrétien n'aura donc jamais un cancer. Eh ben, plaise à Dieu que personne n'ait de cancer. Mais quand dans l'Église, il y en a qui en ont. Y en a-t-il qui en ont ou pas? Est-ce que c'est un châtiment? La crainte suppose un châtiment. Vous voyez dans quel état on se met après? Est-ce que vous voyez dans quel état on se met? Je vous ai dit, moi je ne suis pas très conventionnel dans ce que j'exprime sur l'estrade. Je n'en sais rien. Ce que je dis là n'a rien à voir avec votre pasteur, d'une manière générale. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, vous dites des choses. Il dit, oui, je dis des choses, mais c'est parce que c'est la réalité. Parce que moi, je me suis converti par amour de la vérité. Et je prêche l'Évangile par appel et vocation. Pas pour défendre des points de vue d'hommes qui font du mal aux brebis, et qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a dit. Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur, venez à moi, je vous donnerai du repos. » Même si t'es malade, même si ton mari ne s'est encore pas converti, même si t'as un cancer, même si t'as des enfants qui sont dans la difficulté, que j'ai traversé m'aide peut-être à dire ces choses d'une manière un peu plus forte. Comprenez que après avoir vécu ce que j'ai vécu et que je ne veux pas redire, mais quand notre fils, le dernier fils qui était malade, avait besoin à un moment donné, après plusieurs années, d'un refuge, on l'a repris chez nous. Et alors des personnes, quoi? Tu reprends ton fils? Je dis, eh oui. Parce que avant d'être le pasteur de l'Église, je suis son père. Et quelle serait ma crédibilité si, demandant à l'Église de s'investir dans l'évangélisation des âmes, dans le salut et dans la compassion envers les malheureux et les malades, quelle serait ma crédibilité si moi, père avant d'être pasteur, chrétien avant d'être prédicateur, je n'exerçais pas l'Évangile à l'endroit de mon propre fils? Il y a des gens, ils veulent évangéliser des drogués dans les rues, ils veulent aller vers les sans-abri, vers les gens qui sont à 20 000 kilomètres, parce que c'est difficile d'aller plus loin normalement. Voilà, vous faites le tour de la terre dans l'autre sens. Et puis, ils ont à côté de chez eux. Chez eux! Vous voyez, un jour, j'ai eu c'était pas un problème, mais une situation étonnante. C'est qu'un jour, un jeune homme, trisomique, m'a demandé à le baptême. Il était à toute la réunion. Il me sautait au cou à toute la réunion. Parce que ces personnes-là sont des personnes très affectueuses. Alors, ça faisait rire, assemblée, tout ça. Bon. Et puis, il prenait tout en note. Boum, si je voulais savoir ce que j'avais prêché, j'allais le trouver, il écrivait tout. Puis un jour, il m'a dit, je vais me faire baptiser. Alors, je lui ai demandé, bon, ben pourquoi est-ce que... Alors, il m'a expliqué, parce qu'il croyait au Seigneur et tout. Bon. Je vais voir la maman. Et la maman s'est mise en colère. Et le pire, c'est que la maman s'était investie, soi-disant, d'une mission pour sauver les perdus de la rue. Alors, lui ai-je dit, mais vous voulez sauver les jeunes gens de la rue, les SDF, c'est bien. Mais votre propre fils, qui est trisomique, qui veut se faire baptiser, vous voulez le décourager. Je lui ai dit, votre fils trisomique, il sera toujours trisomique. C'est pas que je ne crois pas que Dieu puisse en faire quelqu'un qui ne le soit plus, mais enfin, peut-être que je suis incrédule, mais enfin, bon, je suis parti de l'hypothèse qu'il était trisomique, qu'il allait le rester. Ne lui demandez pas de dire ou de faire des choses qu'il ne pourrait faire que s'il n'avait pas cette maladie. Il croit au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je vais lui demander de plus? Il est fidèle. Plus que ça, il a plus d'affection pour les autres que des gens très très spirituels, vous savez, psychorigides. Lui, il n'était pas psychorigide, j'aime mieux vous dire. Hein. C'était plutôt psycho-décontracté. Psycho-cool. Ben, je l'ai baptisé. Ben oui, ben, qu'est-ce que vous voulez? Si on n'est pas capable, on peut baptiser des profs d'université, des ministres, s'il y en a. Mais on peut aussi baptiser des gens comme ça. L'Église projette l'image de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. On va peut-être arrêter et être guéri de ça ce matin. De ces peurs-là. J'ai toujours peur. Et l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Parce que, il est midi, mais juste une minute, il fut un temps où c'est pareil, quoi. Le problème, c'est pas un problème de traduction de la Bible, c'est un problème de lecture de la Bible. Et quand je lisais l'amour parfait bannit la crainte, peut-être que j'étais influencé par des choses que j'entendais dire, parce que c'est pareil, dans les églises il y a des traditions orales, il y a la parole de Dieu mais il y a la tradition orale pour interpréter certains passages, et l'interprétation qui était l'interprétation admise, c'était que donc à partir du moment où on aime Dieu d'un amour parfait, alors là, on n'a plus de crainte. Et je m'étais mis dans l'idée d'aimer Dieu d'un amour parfait. Bon, j'ai toujours cette envie, mais je dois vous dire qu'il y a encore du travail. Pas vous, mais moi, oui. Donc, je me suis dit, ben voilà, donc, en étant légaliste comme ça, tu n'es pas prêt d'être guéri. Et après, j'ai compris qu'en fait, non, mais je lisais mal la Bible. L'amour parfait, c'est pas le mien. Quoique, il doit tendre vers la perfection. C'est le sien. Et si j'y crois, ça m'enlève toute trace de peur. Mais le problème,
allez, vous me donnez 5 minutes.
Bon, désolé, non, je suis pas désolé. Si une parole, non mais attendez, si ça pouvait débloquer une situation dans la vie spirituelle de quelqu'un, ce serait quand même bien. C'est que non seulement il y a aussi l'image, n'est-ce pas, de l'amour que le monde véhicule, en fonction aussi de notre éducation, c'est que bien souvent on nous fait croire que l'amour, c'est le résultat qu'on est beau. Mais qu'est-ce qu'être beau ? La Joconde est-elle belle ? Je sais pas. C'est le résultat c'est le fruit des résultats scolaires. Dans le monde, l'amour se mérite. On le dit pas comme ça, mais dans l'éducation des enfants, parfois c'est comme ça. Toi, je t'aime, t'es un garçon, j'ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Toi, t'es une fille, oh les filles. Il y en a qui rentrent là, désolé. Vous voyez, et souvent, des personnes ont été élevées dans l'idée que l'amour devait se mériter. Donc, il faut toujours être à la hauteur. Alors, il faut être à la hauteur dans l'entreprise, il faut être à la hauteur à l'école, il faut être à la hauteur devant les parents parce qu'il ne faut surtout pas les décevoir. Parce que si maman savait qu'alors qu'elle veut que je sois pilote de ligne, j'aurais plutôt envie d'être horticulteur, elle va faire une déprime. Donc, il faut être à la hauteur, il faut toujours être à la hauteur. Et dans l'église, il faut être à la hauteur pour mériter l'amour de Dieu. Ah oui, il faut être à la hauteur dans l'église, mais ça dépend de ce que vous entendez par là. Et on croit comme ça que l'amour se mérite parce qu'on fait des performances. Vous voyez, j'ai gagné tant d'âmes, comme les pilotes de la dernière guerre mettaient des croix sur leur carlingue d'avion en fonction du nombre d'ennemis qu'ils avaient abattus. Il faut aller à la conquête des âmes. Il faut s'emparer. Il faut arrêter. Ou arrêtons. L'amour de Dieu n'est pas basé sur nos performances. Il nous aime. Il a donné Jésus. Et parce que nous avons cru ça, alors nous allons faire notre possible pour ne pas le décevoir, mais pas pour mériter. Parce que c'est normal. C'est normal qu'une épouse essaie de plaire à son mari. Sinon, rester célibataire. Hein. C'est normal qu'un mari essaie de plaire à son épouse. C'est normal qu'un chrétien essaie de plaire à son Dieu. Mais pas parce que c'est une loi de la performance. Mais parce que il y a une relation où, simplement, notre cœur nous pousse à l'aimer. Soyons guéris de tous ces blocages qui finalement nuisent à la relation avec Dieu et avec les autres. On va prier, si vous le voulez bien.